Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
Aujourd'hui dans Podcasting, direction le Pays Basque, dans la ville de Bayonne, proche de la frontière espagnole, un centre accueille les migrants de passage. C'est à lire dans la revue Far West. Le titre de l'article, pose à offrir une halte, et c'est vous qui l'avez écrit, Justine Vallée, bonjour.
Bonjour Juliette.
Vous êtes journaliste et vous collaborez souvent avec la revue Far West. Il y a quelques mois, vous êtes donc allée dans ce centre Posa à Bayonne. Depuis sa création en 2018, plus de 16 000 personnes y ont été recueillies, accueillies. Quelle est la mission de ce centre ?
Alors du coup, 16 000 personnes, c'était en octobre 2020. Aujourd'hui, ils disent accueillir près de 500 personnes par mois. Donc, alors si on compte depuis octobre 2020, on doit être à peu près à 20 000. La mission du centre, en fait, c'est vraiment d'offrir, comme son nom l'indique, une pause aux personnes qui ont déjà eu un parcours assez éprouvant, que ce soit moralement, physiquement. Donc ici, ils peuvent se reposer, prendre quelques jours, ou même pas, mais au moins avoir un peu de temps pour recharger les batteries de téléphone, prévenir un peu les proches, et puis ensuite reprendre la route.
Vous l'avez donc visité, ce centre, puisque vous y êtes allé. À quoi il ressemble ?
Alors, c'est un grand bâtiment militaire de 500 mètres carrés qui est bien gardé par un énorme portail. C'est deux gros blocs de béton. Donc, dans l'un, on trouve les dortoirs pour hommes, d'abord, qui font aussi office de réfectoire. Avant, il y avait un vestiaire à l'époque. Et puis, dans ce même bloc, mais séparé, il y a aussi un dortoir pour femmes et enfants. Puis dans l'autre bloc, on y trouve un garde-manger où tous les plats sont livrés, avec les machines à laver, une quinzaine de frigos, je dirais, et puis un petit coin prière. Entre les deux blocs, on trouve une grande cour pour qu'on puisse un peu s'y divertir.
Le centre est géré en partie par la ville et la communauté d'agglomération du Pays Basque. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce centre ?
Alors c'était justement en 2018, à l'été 2018, quelques migrants arrivaient par dizaines d'abord à Bayonne. C'est quand l'Italie a fermé ses frontières, ils ont dû trouver une autre route migratoire, donc en passant par le détroit de Gibraltar, puis l'Espagne, puis arriver finalement dans le Pays Basque. Donc c'est là où Bayonne a pris la mesure un peu de l'ampleur que ça allait prendre. Et puis finalement, en septembre, ils se sont rendus compte qu'ils commençaient à arriver par centaines. Ils se réunissaient sur une place qui s'appelle la Place des Basques. Une association s'est créée qui s'appelait Diakité. À cette occasion, et puis Aterbea est aussi venue en aide à ces personnes. Finalement, la ville a réagi en ouvrant ce centre pour ne pas qu'ils errent dans la ville avant de repartir.
Est-ce que la décision a été facile à prendre et facilement acceptée dans la ville ?
Alors, facile à prendre, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que la communauté d'agglomération du Pays Basque, donc la CAPB, a voté à l'unanimité le budget. Donc, qui n'est pas financé par la préfecture, mais bien par la communauté d'agglomération du Pays Basque, à l'unanimité des 232 élus. Et finalement, ce que me disait l'adjointe au maire aux solidarités, c'est que les autres élus étaient bien contents que ça se fasse à Bayonne. Et c'est aussi pour ça que ça a fait l'unanimité. Après, au sein de la ville, les opinions des personnes, des individus, je ne sais pas du tout.
Check Chico City, he don't set the love record. Sounds clear to me. avez discuté avec plusieurs migrants de passage. La plupart sont jeunes, 90% ont moins de 20 ans. D'où viennent-ils et pourquoi sont-ils partis de chez eux ?
Alors les 90%, c'était un chiffre avancé par Philippe, donc un peu, entre guillemets, le gardien de la Paoucha. Ça me paraît un peu grand comme chiffre, finalement. En tout cas, quand j'y étais, j'ai quand même vu beaucoup de personnes majeures. Et puis en parlant avec Lucie Bortaïrou, qui est la présidente de l'association d'Aquité, ça me paraît beaucoup. Concernant les parcours, donc c'est beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, du Sahel, qui fuient soit des pays en grande difficulté économique, des pays avec un avenir politique très incertain à cause de la corruption, surtout certains qui fuient un pays en guerre. C'est assez marquant. Enfin, finalement, j'ai beaucoup vu de personnes qui venaient soit de Côte d'Ivoire ou de Guinée, là-bas. Celles avec qui j'ai pu parler, en tout cas. C'est vrai que leur parcours, on n'en parle finalement pas tant que ça. C'est un peu difficile à aborder avec eux, donc ils en parlent s'ils ont envie d'en parler, mais sinon, non. Et puis là, c'est venu tout seul dans la conversation où, à un moment, Tony me dit « Bon, bah, j'ai travaillé dans le Pays Basque, chez un grand chocolatier ». Je lui dis « Ah, t'as dû apprécier », parce qu'il apprécie beaucoup la cuisine finalement. Il me dit « Oui, mais le cacao, ça me rappelle quand même beaucoup chez moi. » Donc Côte d'Ivoire, la République du cacao, voilà, c'est là que je l'ai vu se tendre un peu. Et ça raconte, mine de rien, c'était au détour d'une phrase, mais ça raconte quand même beaucoup de ce qui fuit et de leur parcours.
Quand ils arrivent à Bayonne, est-ce que c'est pour rester à Bayonne ou est-ce que c'est pour aller autre part ensuite ou est-ce que peut-être aussi ils ne savent pas encore ?
Alors, la plupart de ceux qui arrivent veulent repartir. Déjà, ça se voit parce qu'ils toquent à la porte le matin ou le midi. Et à l'image des deux personnes que j'ai pu voir qui s'enregistraient à la Paoucha le matin, elles sont reparties dans un car en direction de Paris le soir. Tout simplement parce qu'à Bayonne, il n'y a aucun centre administratif auprès duquel on peut faire une demande d'asile. Donc si on reste à Bayonne, il faut toujours faire des déplacements au plus proche, c'est-à-dire à Bordeaux. Donc la plupart cherchent à rejoindre des métropoles, mais aussi cherchent à rejoindre des métropoles parce que c'est là où ils vont trouver de l'emploi. Il n'y a que Tony et Bertrand, dans ceux que j'ai rencontrés, qui avaient l'intention de rester à Bayonne.
Ce centre, combien de temps on peut y rester et qu'est-ce qui est proposé la journée ? Vous avez parlé donc des cuisines, des machines à laver. Est-ce qu'il y a aussi des activités, des formations ?
Comme je le disais, la plupart des personnes qui y passent restent une journée à peine, simplement le temps de recharger les batteries. Quand j'y étais, on était en pleine période de crise sanitaire, donc certains y étaient depuis un mois à peu près, mais c'est assez rare finalement, étant donné qu'il n'y a que des gens de passage. La journée, alors soit ils peuvent se promener dans Bayonne, généralement ils se relaient aux tâches. Là par exemple, il y avait Bertrand, quand je l'ai vu, il grattait quelques notes sur sa basse, et en fait il s'occupait à côté des machines. Ils ont aussi des formations qui ont commencé à être proposées par la CIMAD, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas. Donc des formations, des cours d'alphabétisation en fait, pour qu'ils puissent bien apprendre le français, même si la plupart d'entre eux le parlent déjà, pour bien l'écrire. Alors il y a des cours de différents niveaux. Il y a aussi avant les associations qui proposaient certains événements, que ce soit le week-end ou en semaine, des petits goûters, des choses comme ça. Mais comme les associations ont toutes quitté le centre et qu'il ne reste plus que la commune et la communauté d'agglomération... Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup d'activités qui soient proposées. De ce que j'ai entendu, les salariés sont déjà bien surchargés.
Dans votre article, on sent beaucoup d'espoir chez ces jeunes migrants qui comptent demander l'asile. Combien, dans les faits, arriveront à rester en France ?
Il y a beaucoup d'espoir chez les personnes qui y passent parce qu'elles ont eu des échos comme quoi ça allait être génial. Elles quittent de toute façon, finalement, quelque part, la misère, un pays en guerre. Donc, ça ne peut qu'être mieux. Mais il y a beaucoup plus d'espoir chez eux que chez les bénévoles. C'est vrai que, par contre, quand on regarde les chiffres, alors les chiffres de l'APA au chat, précisément, je ne les connais pas, mais les bénévoles et salariés étaient eux-mêmes très pessimistes. Et quand on regarde les chiffres, qui sont un peu difficiles à lire, en 2020, sur 96 000 demandes et 70 000 décisions rendues par l'organisme, finalement, il n'y en a que 24 000 qui ont abouti. Donc finalement, ça représente un chiffre très peu élevé de demandes qui aboutissent. Les refus sont même de plus en plus fréquents au fil des années, parce que s'il y a eu moins de demandes cette année que l'année précédente, le pourcentage de refus a été d'autant plus grand cette année, et plus les années passent, et pire c'est.
Quelle est l'ambiance un petit peu entre les migrants ?
Alors, entre les migrants, Tony me disait que il y avait certains groupes, notamment entre les pays, où, alors sans dire que ça allait jusqu'à la bataille entre tous, c'était parfois c'était des petites guéguerres entre des personnes de différents pays, mais finalement, Tony me disait quand même, moi, mes frères, je les ai connus au centre, j'avais personne avant d'arriver ici. Donc c'est quand même beaucoup d'entraide, que ce soit entre migrants et migrants ou entre bénévoles et migrants qui s'est créé.
Justement, ces bénévoles, comment travaillent-ils ? Quelles sont leurs missions ?
Alors aujourd'hui, il n'y a plus de bénévoles à la Paucha, ce ne sont que des salariés. Mais je me souviens de ces salariés qui couraient partout pour répondre à toutes les demandes, parce qu'il y a des demandes un peu dans tous les sens. En plus, venait d'y avoir un accouchement, donc il fallait un peu tout gérer. Il y a aussi l'administratif à gérer, parce que c'est les salariés qui s'occupent de commander les billets de bus, de gérer les arrivées, de leur expliquer comment le centre fonctionne. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et à l'époque, il me semble qu'ils étaient 6 salariés, si je me souviens bien. Donc ça fait quand même assez peu pour un centre qui accueille à peu près 150 personnes par jour. The rain came through my treetop and washed away so many things. Things I couldn't learn till I went through. Things I didn't know till I met you.
En tant que journaliste, est-ce que vous vous êtes posé des questions avant d'écrire sur ce sujet, notamment parce que vous alliez rencontrer donc de jeunes migrants qui ont souvent des histoires assez difficiles ? Quelles questions avez-vous pu donc vous poser avant de vous y rendre ?
Il y a eu beaucoup de questions que je me suis posées. D'abord, le fait que la communauté d'agglomération et les associations travaillent main dans la main. Bon, malheureusement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'était quand même quelque chose d'assez inédit en France. En plus d'ouvrir un centre comme ça, qui accueille des migrants, quand la politique aujourd'hui est clairement à la restriction des demandes de l'octroi des demandes d'asile, ça m'a quand même paru quelque chose d'assez inédit. Et ce que je me posais comme question, c'était aussi quel allait être l'état d'esprit dans lequel allaient être les migrants qui passaient par là, c'est-à-dire sans forcément rentrer dans leur parcours qu'ils avaient fait avant, etc. Est-ce que ce centre, finalement, ça les aidait, ça leur redonnait espoir Et puis c'est vrai que je suis arrivée là-bas, j'ai passé une journée qui était, faut le dire, humainement humainement exceptionnel.
Vous l'avez dit tout à l'heure, on n'arrive pas comme ça devant un jeune migrant en lui disant « alors raconte-moi ton histoire » parce qu'on sait que parfois ça peut être dépassé très difficile, qu'un mot, vous l'avez dit tout à l'heure, cacao peut déclencher de mauvais souvenirs. Comment vous faites justement pour... Vous avez fait pour discuter avec eux et pour prendre le temps de les écouter?
Alors c'est vrai que d'abord, le matin quand j'ai visité le centre avec Philippe qui était le gérant du coup et puis l'adjointe aux solidarités du maire, j'ai pu un peu voir des visages, en voir certains qui revenaient, prendre certains temps d'observation. Ensuite, j'ai pu avoir Philippe qui m'a mise en relation avec, par exemple, Bertrand, avec qui finalement j'ai beaucoup parlé quand il grattait quelques notes sur sa basse. Aussi, Lucie Bortairou a pu jouer le rôle d'intermédiaire avec certains autres migrants. Mais c'est vrai que c'est difficile c'est impossible en fait d'aller les voir et de leur dire bonjour, comment tu t'appelles, d'où est-ce que tu viens. Enfin, c'est quelque chose qui m'était, moi en tout cas, impossible sans passer par le biais de quelqu'un qui pouvait les connaître en tout cas.
Merci Justine Vallée. Votre article « Paosha, offrir une halte » est à lire dans la revue Far West.
Merci Juliette Chénion. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feignier, Mathilde Leuil et Marion Ruot. Iconographie Magali Maricot. Programmation musicale Gabriel Taillet. Réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.